Soir Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, il est 11h en temps universel. Bonjour à tous. Le principal parti d'opposition soudanais a déclaré dimanche rejeter la grève générale prévue demain mardi par des dirigeants de la contestation, signe qu'une division au sein du mouvement qui fait pression sur les militaires en vue d'un transfert du pouvoir aux civils. Nous rejetons la grève générale annoncée par certains groupes d'opposition, a annoncé le parti Al-Ouma dans un communiqué en référence à l'Alliance pour la liberté et le changement, ALC, le fer de lance du mouvement de contestation dont le Soudan est le théâtre depuis décembre. Cette déclaration d'Al-Ouma reflète des dissensions au sein du mouvement de contestation, alors que des négociations sur une transition politique avec les militaires sont depuis à l'arrêt. Et dans l'espoir d'un maintien de la charia en vigueur au Soudan depuis trois décennies, les mouvements islamistes font bloc derrière les militaires dans les négociations avec les chefs de la contestation. Je vous l'ai dit, sont au point mort. Ces formations islamistes n'ont pas donc rejoint l'Alliance pour la liberté et le changement depuis le départ de M. Béchir. Un agent de l'équipe de riposte contre l'épidémie d'Ebola a été tué dans le soulèvement samedi d'une partie des habitants d'un village de l'Est de la République démocratique du Congo, où un centre de santé a aussi été pillé selon les autorités. Une partie donc de cette population du village de Vusairo, notamment dans la zone de santé de Mabalako, dans le nord Kivu, s'est soulevée et a attaqué l'équipe locale de la riposte contre Ebola, affirme le bulletin quotidien du ministère de la Santé daté de dimanche. Un hygiéniste de l'équipe de prévention et contrôle des infections est décédé des suites de ses blessures lors de son transfert vers l'hôpital, indiquent les autorités dans le bulletin. Et toujours en RDC, au moins 30 personnes ont été tuées et plusieurs dizaines d'autres portées disparues dans le naufrage samedi d'une embarcation sur le lac Maïndombé dans l'ouest du pays. Eric Manirakiza.
En réaction à l'impasse des discussions avec les généraux du Conseil militaire de transition, l'Alliance pour la liberté et le changement, ALC, et fer de lance du mouvement de contestation, avait appelé vendredi à une grève générale les 28 et 29 mai, soi-disant contrainte de recourir à cette action pacifique faute d'alternative. Le parti Al-Ouma, dirigé par l'ancien premier ministre Sadek Al-Mahdi et membre de l'ALC, a estimé qu'une grève générale est une arme qui ne devrait être utilisée qu'après avoir fait l'objet d'un consensus, appelant à maintenir l'unité au sein de cette alliance. Un autre acteur majeur au sein de l'ASC, le parti du Congrès soudanais, a lui exprimé son adhésion à la grève générale peu après l'annonce d'Al-Ouma. Plusieurs corporations professionnelles allant des banquiers aux médecins ont répondu favorablement à l'appel à la grève. Les négociations entre le Conseil militaire et l'ALC ont été interrompues le 20 mai en raison des désaccords sur la composition du futur Conseil souverain qui doit être mis en place pour gérer la transition. L'ALC exige que cette instance soit présidée et composée majoritairement de civils. Les généraux souhaitent à l'inverse prendre la tête de cette instance et obtenir la majorité des sièges. Le Conseil souverain doit se substituer au Conseil militaire pour une période de 3 ans avant la tenue des premières élections post-Béchir.
Voilà, vous aurez rectifié de vous-même. Il s'agit plutôt de notre confrère Fidel Niyongabo qui nous parlait de la situation au Soudan. On revient sur la République démocratique du Congo. Je l'ai dit, 30 personnes ont été tuées et plusieurs dizaines d'autres personnes ont été portées disparues dans le naufrage samedi d'une embarcation sur le lac Maïndombé dans l'ouest du pays. Eric Manirakiza.
Selon le maire d'Inongo, Simon Mbowemba, il y a 183 rescapés, le bilan étant encore provisoire. Le maire a pointé l'état de vétusté du bateau de type baleinière. Le bateau avait embarqué plus de 350 passagers, précisant que les recherches allaient se poursuivre sur le lac Maïndombé. Cependant, le nombre exact de passagers est difficile à établir en raison de la présence de clandestins sur ce bateau. Quasi dépourvu de route, la RDC est souvent endeuillée par ce genre de tragédie. Les naufrages se soldent souvent par des bilans très lourds en raison de la surcharge et de la vétusté des embarcations, de l'absence de gilets de sauvetage à bord et du fait que beaucoup de passagers ne savent pas nager. Mi-avril, au moins 15 personnes avaient été tuées et des dizaines d'autres portées disparues dans le naufrage d'une embarcation entre Goma et le territoire de Kalehe sur le lac Kivu. Au chevet des victimes, le président Félix Tshisekedi avait annoncé le port obligatoire de gilets de sauvetage dommage par les passagers voyageant sur le lac Kivu.
Au Togo, selon notre correspondante sur place, les hôpitaux publics n'ont pas bonne réputation, une situation qui fait que la population ne fait pas confiance au personnel soignant dont l'accueil laisse à désirer. Pour redorer le blason des hôpitaux publics, le ministère togolais de la Santé a opté pour leur contractualisation lancée en 2017, 2 ans après leur être au bilan. Reportage à Lomé de notre correspondante Kayla Osson.
Le Togo s'est inscrit depuis 2 ans dans une approche contractuelle de ses services de santé. L'objectif est d'améliorer le système de santé en assainissant la gestion des finances des hôpitaux. Après la phase pilote qui a concerné une dizaine de centres hospitaliers, le bilan est reluisant, nous dit le ministre togolais de la Santé, le professeur Mustapha Niziyawa.
Cette contractualisation a beaucoup assaini la gestion des finances des hôpitaux. Et ça a beaucoup impacté sur les taux de consultation, les taux de fréquentation, l'aspect maternité, l'aspect prise en charge chirurgicale. Maintenant, c'est d'équiper et de réhabiliter les différentes formations sanitaires, ce qui fait que les deux aspects réunis vont nous permettre de mettre en place un système de santé de base robuste, correct pour nos populations.
Reconnaissant que la contractualisation a contribué à une certaine amélioration des services dans les hôpitaux publics, ces Togolais appellent à plus d'humanisme dans les centres sanitaires.
On a senti qu'il y a une nette amélioration de la vie sanitaire. Donc dire qu'on doit améliorer quelque chose, c'est l'accueil et traiter tout le monde de la même manière. Ce n'est pas parce qu'on me connaît que je dois bénéficier des soins de santé de qualité. Tout le monde doit être respecté en tant qu'être humain.
Beaucoup d'améliorations, surtout dans le cadre du service qui est rendu. Je voudrais qu'il y ait beaucoup de choses qui changent dans notre système sanitaire. Je pense qu'on doit mettre encore un peu d'humain dans nos centres hospitaliers.
En visite au Togo à la fin du mois d'avril, la directrice région Afrique de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a estimé que grâce à la contractualisation, le Togo peut augmenter le budget alloué au secteur de la santé. Docteur Matidizo Mouetsi.
Nous constatons dans beaucoup de pays, y compris ici au Togo, qu'il y a lieu d'augmenter l'allocation du budget public dans le système de santé. Je suis très satisfaite ici, le ministre a déjà constaté ça, et il a pris action avec ce projet de contractualisation d'aller vers ça. Le pays est dans la bonne voie. Ce que nous pouvons faire comme l'OMS, c'est appuyer ce processus avec les hôpitaux.
Selon les résultats rendus publics par le ministère de la Santé, la disponibilité des médicaments dans les centres contractualisés est supérieure à 95%. En ce qui concerne les chiffres d'affaires, ils ont connu une augmentation entre 22 et 69% selon les centres de santé. Kailson, Lomé, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Les forces pro-Union européenne ont conservé une nette majorité au sein du Parlement européen, mais l'Assemblée va tourner la page de son bipartisme historique après un scrutin dont elle ressort plus fragmentée que jamais. D'après les résultats préliminaires, les chrétiens démocrates du PPE et les sociaux-démocrates du SND ne sont plus en mesure de constituer à eux seuls une majorité, tout en restant les deux plus grandes formations dans l'hémicycle. Les progrès des nationalistes et populistes, mais aussi des libéraux et des verts, leur ont en effet coûté des dizaines de sièges sur les 751 dont est composé le Parlement européen. Donald Trump a maintenu la pression sur le Japon aujourd'hui pour réduire le déficit de la balance commerciale entre les deux pays à l'occasion d'un sommet avec le premier ministre Shinzo Abe, tout en se disant satisfait de l'évolution des négociations avec la Corée du Nord. Lors d'une conférence de presse conjointe, le président des États-Unis a promis de faire très prochainement des annonces qui permettront, selon lui, de corriger le déficit de la balance commerciale avec le Japon. Outre son entretien avec le chef du gouvernement, Donald Trump est devenu aujourd'hui, au troisième jour de sa visite d'État, le premier dirigeant étranger à être reçu par le nouvel empereur du Japon, Naruhito. Et puis le roi Salman d'Arabie Saoudite a invité l'émir du Qatar, Sheikh Tamim Ben Ahmad Al Thani, a assisté à 2 sommets à la Mecque. Ce sera le 30 mai. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et l'Égypte ont mis en place un boycott économique et diplomatique du Qatar depuis juin 2017 à raison de la proximité de ce dernier avec l'Iran. Les Saoudiens accusent les dirigeants qataris de soutenir le terrorisme, ce que ces derniers démentent. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes avec Henri Francis. À tout à l'heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.